Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/ACAST. That's burrow.com/ACAST. burrow.com/ACAST.
Avant de commencer cet épisode, nous voulions vous parler d'un autre podcast que j'ai lancé. C'est Louise qui vous parle, avec mon studio de podcast Clap Audio. Le Cul de Poule est un podcast culinaire hors du commun. Vous allez cuisiner avec la chef Héloïse Monziès des recettes de saison, saines et gourmandes, en 30 minutes chrono. C'est un peu comme si vous étiez avec la chef dans votre cuisine. Elle cuisinera à votre rythme en vous murmurant les bons gestes et les astuces de chef à l'oreille. Plus besoin d'ouvrir un livre de recettes que l'on tâche en cuisinant ou de chercher le bon tuto YouTube. Grâce au Cul de Poule, on a les mains libres, on écoute et on cuisine. Chaque semaine, découvrez une nouvelle recette à écouter. Personnellement, j'ai adoré la charlotte au biscuit rose. Le millefeuille d'endive est incroyable et les biscuits sont à tomber par terre. La saison 2 du podcast en diffusion actuellement est une invitation au voyage avec des recettes du terroir français. J'espère vraiment que cette expérience culinaire vous plaira et j'ai hâte d'avoir vos retours. Retrouvez le Cul de Poule sur toutes vos plateformes d'écoute habituelles. Et maintenant, je vous laisse avec Christa. Bonne écoute.
Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes des amis de Télène, j'imagine.
Oui, exactement.
C'est ça.
Merci.
Merci beaucoup.
Je suis très fière de voter. Et j'espère que toutes les femmes auront rempli leurs devoirs.
Ressemblez à mes parents ?
Ah non, pas du tout.
Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes.
Dominique, libère la femme. Libère la femme. Libère la femme.
Vous aviez 20 ans.
Qui on va fréquenter ? Les grands-mères ?
Mamie dans les orties est un podcast qui recueille les récits de nos grands-mères. On y écoute des histoires dans l'histoire. Parce qu'il est nécessaire de comprendre d'où l'on vient pour savoir où l'on va. Ici, on écoute les premières qui ont eu le droit de voter, d'avoir un chéquier à leur nom, de divorcer, d'avorter, finalement de vivre de plus en plus librement. Nous sommes Marion et Héloïse, et aujourd'hui, nous allons chez Christa.
Et quand mes parents ont vu que la situation en Hongrie ne changeait pas, ils ont dit bon, on quitte l'Europe. Et papa a demandé un visa de politique, ça, on appelle ça, pour partir aux États-Unis.
Est-ce que vous voulez qu'on enlève vos chaussures ?
Christa est née en 1942 en Hongrie. Elle a connu l'histoire avec un grand H, celle de la Grande Guerre et de l'ancien bloc de l'Est. Christa est de toutes les cultures, de toutes les langues. Sa vie de réfugiée, en fuite d'un pays à l'autre, résonne fort avec l'actualité. Il nous questionne sur les secondes chances à donner à ceux qui doivent tout quitter pour recommencer ailleurs.
Alors, dites-moi.
On commence par le début. Où vous êtes née, en quelle année, et le début de votre jeunesse?
Je suis née en 1942 à Budapest. Je me souviens de la Hongrie jusqu'à l'âge de 6 ans. Pendant la guerre, je me souviens vaguement, les bombardements, descendre dans les caves. J'ai passé beaucoup de temps chez mes grands-parents à la campagne, mes grands-parents avaient une maison au bord du Danube. C'est tout, je pense. Et alors, moi, ce qui m'a beaucoup marqué, mon papa faisait de la politique, il était au Parlement, il était avocat international et anticommuniste, mais à fond. Et donc, quand les communistes ont pris le pouvoir en 1948, il a fallu que mes parents quittent la Hongrie. Autrement, papa était sur une liste pour être arrêté et emprisonné, ou on ne sait pas ce qui se passait à ce moment-là, à ces gens-là. Et la preuve, c'est qu'on devait partir. Son meilleur ami était maire de Budapest à l'époque. Mes parents avaient prévu de quitter la Hongrie clandestinement avec son ami, sa femme et leur fille de mon âge. La petite fille est tombée malade, donc ils n'ont pas pu partir avec nous. Et le lundi suivant, ce monsieur, le maire, a été arrêté et a passé 7 ans en prison. Et il a été libéré, les prisons ont été ouvertes en Hongrie en 1956, lors de la Révolution. Et là, tous les gens sont sortis de prison. Je suis hongroise, oui, bien sûr. Je parle encore hongrois, oui. Pas parfaitement, mais je parle, oui. Et donc, en 48, nous sommes partis clandestinement sous les barbelés. C'est ça, c'est une partie très passionnante de l'histoire de mes parents. Papa avait trouvé un guide qui nous a aidés à traverser la frontière, ma sœur, et qui nous a fait passer de la Hongrie à Vienne. Il y avait un train qui ramenait les ouvriers autrichiens à Vienne, et il y avait une courbe dans le passage du train, des rails, et les passeurs payaient, donc le conducteur de train, qui, au lieu de ralentir normalement à ce passage, ralentissait davantage, et les clandestins pouvaient sauter dans le train. Voilà. Et c'est ce qui s'est passé, alors mes parents et moi. Nous avons sauté dans ce train qui ramenait les ouvriers à Vienne. Et ça, je me souviens, c'était un train, il y avait des bancs, il n'y avait pas de siège comme on connaît, des bancs des deux côtés du train, et on a trouvé des places. Et moi, je ne savais pas du tout ce qui se passait, hein. J'avais 6 ans. Et après, j'ai su que mes parents avaient énormément, très peur qu'il y ait un contrôle dans le train et qu'il soit arrêté. Mais ça, j'entends encore les sifflements, les chiens qui aboient. C'était une frontière qui était gardée par les communistes pour que les gens ne puissent pas quitter le pays. Et donc, on est arrivé à Vienne. Alors, nous avons été dans un petit hôtel. C'était au mois de décembre. On a passé Noël dans un petit hôtel. Là, je vais pleurer. Je me souviens que mes parents étaient très tristes. Et Le passeur est venu nous voir à l'hôtel en disant, il était très inquiet, il dit que les communistes avaient trouvé sa trace, parce que c'est pas nous, il faisait ça tous les jours. Et on a su par la suite qu'il avait été arrêté et fusillé. Donc il savait qu'il y avait des problèmes. On est resté à Vienne quelques semaines, et ensuite nous sommes partis à Genève, car maman avait une sœur à Genève qui avait épousé un monsieur suisse et qui était établi à Genève. Donc ils nous ont accueillis tous les trois chez eux pendant peut-être 6 mois, et après nous avons loué, enfin mes parents ont sous-loué 2 chambres dans un appartement à Genève. Voilà. Et j'étais scolarisée. Papa a fait une école hôtelière. Parce que bon, il ne pouvait pas être avocat en Suisse, mais il n'avait pas le diplôme. Il a fait l'école hôtelière.
Et vous parliez
français, oui. Parce qu'en principe, les gens d'un certain niveau d'éducation en Hongrie parlaient français. Oui. Je parlais hongrois. J'avais une gouvernante à Budapest. Mes parents étaient très aisés. Hein. J'avais une gouvernante à Budapest. J'ai retrouvé des cahiers où elle me faisait faire A, O, U, des sons français, mais c'est tout, j'ai jamais été plus loin, mais j'ai appris le français. Un enfant apprend très vite. Hein. Et donc j'ai appris le français, j'étais scolarisée à Genève. Donc papa a fait l'école hôtelière et très vite il a été nommé gérant d'hôtel dans les montagnes pendant l'été et l'hiver. Maman, qui avait un doctorat d'histoire de l'art, qu'elle avait obtenu à Rome, parce que maman avait fait ses études à Budapest, et elle avait eu une bourse pour faire un doctorat à Rome. Donc elle est partie à Rome et elle a fait son doctorat à Rome. Donc elle était bien diplômée aussi, et elle a fait une école de couture pour aider à gagner notre vie. J'ai toujours la machine que maman avait achetée en 1950 peut-être. Mais je ne sais pas coudre, mais je garde la machine. C'est ça que je veux raconter, c'est qu'ils ont été formidables. Excusez-moi. Jamais, jamais, ils ne se sont plaints, jamais. On sous-louait deux chambres chez, chez Madame Dubat à Genève, rue du 31 décembre. Vous voyez. Et jamais. Ils ont pris la vie à plein corps. Vraiment, ils ont toujours avec le sourire, l'espoir. On a passé 5 ans en Suisse, et quand mes parents ont vu que la situation en Hongrie ne changeait pas, ils ont dit, bon, bah, on quitte l'Europe. Et mon papa a demandé un visa politique, ça, on appelle ça, pour partir aux États-Unis.
Ainsi donc, en 1953, Christa et ses parents quittent l'Europe et disent adieu à leurs racines pour tout recommencer sur un autre continent.
La Suisse était un passage pour eux. C'était en espérant pouvoir retourner en Hongrie, dans leur pays natal où ils avaient tout laissé. Et quand ils ont vu que... Donc ça, c'était en 1953. En 1953, le communisme était encore en cours en Hongrie. Papa a décidé que ce n'était pas la peine d'attendre plus longtemps. Ils ne voulaient pas vivre en Suisse. Ils étaient très heureux, ils ont été bien accueillis. Mais les Suisses sont très accueillants, mais à un moment donné, ça reste pour les Suisses. Donc papa était gérant d'hôtel, mais il n'aurait jamais pu aller plus loin, plus haut en hôtellerie. Et puis maman, la couture, c'était peut-être pas son truc. Et donc on est parti aux États-Unis. On est parti en 53, et il faut 5 années de vie aux États-Unis pour être naturalisé. Et donc, mes parents et moi, à 53 et 5, on a été naturalisés en 1958. Et donc, de 48 à 58, mes parents étaient ce qu'on appelle apatrides. Moi aussi, parce qu'en quittant la Hongrie, on a perdu, clandestinement, on a perdu notre nationalité hongroise. Et donc, on faisait partie des apatrides. Là, ça paraît aberrant maintenant, pas de passeport, pas de carte d'identité, rien. On existait comme ça. Nous sommes partis aux États-Unis sur le United States, un bateau prestigieux. Mes parents n'ont jamais revu leurs parents. Donc on est parti aux États-Unis. Là, pareil, pas de situation. Oui, alors on a été dans un hôtel épouvantable, c'est vrai. 72e rue Ouest, Hardgrave Hotel, je me souviens. Il y avait des drogués, c'était. Enfin, mais on était logés dans un hôtel. Papa, alors, faisait nettoyer un magasin, faisait le. Oui, de 7h à 9h, il balayait un magasin. La nuit, il faisait la comptabilité de nuit dans un hôtel et. Il avait 3 heures où il travaillait pour la Voix de l'Amérique, un organe du gouvernement américain, qui transmettait des informations aux pays sous le joug communiste. Et donc le service hongrois avait une section dans cet organisme, et papa, donc, pendant 3 heures tous les jours, transmettait, lisait les informations, les actualités, qui partait en Hongrie, mais sous un faux nom, bien sûr, mais la famille reconnaissait la voix de papa. Donc voilà. Et après, la Voix de l'Amérique a déménagé sur Washington, et papa est parti à Washington d'abord, et là il a été pris à temps complet à la Voix de l'Amérique, et puis après il a fait une très belle carrière. Maman, pendant ce temps-là, à New York, promener des chiens pour se faire un peu d'argent, et elle s'est inscrite aussi à l'université pour suivre des cours d'anglais.
Et vous parliez anglais? Vous avez dû réapprendre une langue?
Personne, aucun de nous ne parlait. Donc maman s'est inscrite à la fac, moi ils m'ont mis dans un pensionnat, c'était une fortune pour eux, mais à Staten Island, donc c'est une île, tous les lundi matin, je partais au pensionnat, et Et je rentrais le vendredi soir, mais il venait me chercher, il m'amenait, hein, parce que ça fait 11 ans, hein, je ne pouvais pas voyager toute seule. Comme moi, j'étais, ils se sont toujours occupés de moi. Un souvenir que qui m'est toujours resté, on était donc dans cet hôtel, et le 31 décembre, mes parents ont mis ce qu'ils avaient de plus beau, et on a ouvert les fenêtres, et on a écouté les cloches de Times Square. Et là, j'ai vu mes parents pleurer. La seule fois de leur vie. Et j'ai vu mes parents pleurer parce qu'ils n'avaient rien. Ils étaient dans un hôtel épouvantable. Ils étaient seuls. C'était pas facile. Mais c'était pas facile du tout. Mais là encore, je n'ai pas vraiment de souvenirs. J'étais pas malheureuse. Je pense qu'un enfant prend la vie comme elle vient. Hein. Si, quand j'ai vu mes parents pleurer, ça, c'est, je n'oublierai jamais ça. C'est la seule fois où j'ai vu qu'ils lâchaient un petit peu, ils lâchaient prise. Hein, parce que, mais jamais autrement. Je me souviens aussi à Washington, on se moquait de moi parce que j'avais un accent. J'ai appris l'anglais assez vite, mais le R anglais est tout à fait différent du R français que je connaissais. Voilà. Et après, j'étais à l'université de Georgetown, à Washington. J'ai fait des études à Georgetown. J'ai passé 12 ans aux États-Unis. Alors, à Georgetown University, je faisais une licence de linguistique et de langue, de français. Voilà. Alors, à Georgetown, donc les étudiants qui faisaient des langues avaient la possibilité de passer la troisième année de leurs études à l'étranger, dans le pays. Et donc, moi, j'ai demandé, je suis partie à la Sorbonne, voilà, pour ma troisième année d'université, j'étais fière comme tout, sur un bateau d'étudiants. C'est un Liberty Ship de 200 personnes qui accueillait 600 étudiants. Donc je me souviens de la cabine, on était 6 filles, je crois. Et il y avait une liste des passagers. Et j'ai vu sur le passager qu'il y avait un Hongrois. Et ça, on reste très attachés. Moi, j'étais hongroise quand même, mais avec tellement de bouleversements. J'ai vu un Hongrois, j'ai vu le numéro de la cabine, et j'étais frappée à sa cabine en disant, je voulais dire, je suis hongroise, moi aussi. Ça paraît aberrant, mais ça me paraissait tellement naturel. Et ce Hongrois partageait sa cabine avec Roland. Voilà, parce que Roland avait passé, il a fait l'ENSM à Nantes, et comme voyage de fin d'études, ils sont partis un mois aux États-Unis. Voilà. Et il était sur le bateau, voilà. Et ça, il y a 58 ans, 59 ans maintenant.
Et qu'est-ce qui s'est passé quand vous avez frappé à la porte de la cabine?
Je pense que je lui ai dit bonjour. Il a dû penser, elle est folle ou elle cherche une aventure. Enfin, il a dû penser des tas de choses. Et moi, vraiment, je voulais dire, je suis hongroise et je suis heureuse de te rencontrer en Hongrois. Et puis, bon, on a bavardé un petit peu, mais il était avec Roland. Et donc, Roland parlait français, et ce jeune homme parlait hongrois, bien sûr, et allemand, parce qu'il vivait en Allemagne. Donc, leur seul moyen de communiquer, c'était de rire.
Une rencontre à la Rose et Jack pour Christa. Quoi de plus romantique que de rencontrer son mari par hasard sur un paquebot?
Oui, je continue, donc je pars un an à la Sorbonne, première fois que je quittais mes parents, j'étais heureuse et tout, et au mois de décembre, je reçois une lettre de papa, à l'époque on ne téléphonait pas, hein. C'était en 60, papa qui, heureux comme tout, dit « je suis nommée à l'ambassade des États-Unis à Paris ». Oh, j'étais heureuse de retrouver mes parents, même si flûte, ma vie d'étudiante finie. Et donc papa est venu, il a passé 3 ans. Et donc voilà, mes études, mon année de liberté terminée, mes parents étaient à Paris, ben, il fallait que je réintègre
Du coup, vous aviez un appartement toute seule ?
À l'époque, pensez-vous, j'avais une chambre. Une chambre chez le particulier. Maman m'avait mis sur le... Alors ça, c'était en 62. Maman m'a amenée de New York à de Washington à New York pour me mettre sur le bateau. Et papa m'attendait à l'autre bout. C'était 9 jours de navigation. Papa travaillait, donc lui, il a pris l'avion. Il m'attendait. Il est venu avec moi à Paris et il m'a trouvé une chambre chez une dame. Hein, pour être sûr que j'étais sagement logée.
Et après, il est reparti.
Oui. On a passé une semaine ensemble. Il avait pris une semaine de vacances. Il m'a montré un petit peu l'Europe. On a été à Venise ensemble. On a été en Suisse où on avait encore de la famille. Et puis, il est reparti. Voilà. Et donc j'ai réussi, j'ai regagné le bercail. Et après, à la fin d'année, je suis repartie aux États-Unis pour ma 4e année, pour finir mes études à Georgetown. Et là, j'ai loué un appartement avec 3 autres filles. Voilà. Et la dernière année, donc, comme j'avais connu Roland, j'ai dit à mes parents, j'aimerais bien revenir à Noël. Hein? Donc j'étais à Washington, ils étaient à Paris, j'aimerais bien revenir à Noël. Papa et maman dit pas de problème, mais tu travailles, il faut payer ton billet d'avion.
Et du coup, quand vous êtes dans le bateau, vous découvrez son hongrois. Et là, c'est ce que vous dites, bah, il y avait Roland dans la cabine, et puis
oui,
voilà.
Oui,
vous
ben êtes, donc,
vous êtes parlé
on,
ou vous
on
êtes...
a, oui. On... Et puis après, donc, je suis allée à Sorbonne. Roland faisait un stage de fin d'études à Soissons, et il venait tous les week-ends à Paris. Mais moi, j'étais chez la logeuse qui ne le laissait pas rentrer.
Et du coup, vous vous voyez dans un café ou...
Oui, oui. Puis on était au théâtre, on était au cinéma. On s'est mariés en 1965.
Et donc, vous vous êtes mariés et vous avez emménagé à Angers tout de suite.
Oui. Et moi, j'ai vécu à Washington, à New York, des grandes villes. Où il y a un anonymat est formidable. Et pour moi, Angers, c'était une petite ville. Tout le monde sait tout ce qu'on fait. Je me souviens une dame que j'ai rencontrée qui me dit « Ah, vous avez été chez le coiffeur. » J'ai dit « Oui, ça se passe. » Elle dit « Je vous ai vu sortir de chez le coiffeur. » Je me suis dit « Mais comment on, à Washington, jamais on ne rencontrait quelqu'un, jamais dans la rue. Hein. »
Et les États-Unis, vous manquez pas trop quand vous étiez en France ?
Si, beaucoup. Au début, beaucoup.
Et vous êtes retourné en Hongrie ?
Oui. Alors, Roland m'a ramené la première fois en 68, l'année où j'ai passé mon CAPES. Il m'a tenté, on s'est mis en voiture. Et puis, on avait Yvan, mon fils, qui avait 6 mois, dans le couffin, sur le siège arrière. Et puis, on est parti en Hongrie. Voilà. C'était merveilleux. J'ai beaucoup parlé, là.
J'ai encore des questions.
Oh, au contraire, vous m'aidez.
Et après votre mariage, vous êtes devenue maman rapidement ?
Alors, Yvan, on s'est mariés en juillet 65 et mon premier fils est né en décembre 67. J'ai fait une fausse couche entre-temps et maman était malade. Mais vraiment, je crois à ces choses. J'avais tellement peur de ne pas pouvoir aller la rejoindre. Parce qu'à l'époque, une femme enceinte, on ne prenait plus dans l'avion à partir d'un certain mois. J'avais une frousse, et puis j'ai rien fait, bien sûr, mais j'ai pas gardé. Le bébé est parti. Voilà. Mais ça encore, j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie, parce qu'imaginez que j'ai gardé ce bébé, puis que je ne pouvais pas aller aider maman, ça aurait été affreux pour moi. Et après, j'ai eu 2 autres enfants.
Et du coup, la vie à Angers, vous êtes toujours resté à Angers ?
Toujours. Roland avait une entreprise de mécanique et de fonderie, et donc il était tenu à rester à Angers. J'ai fait de l'enseignement, j'ai beaucoup aimé, mais j'ai repris mes études, parce que je ne pouvais rien faire d'autre à Angers, et je voulais travailler. Pour moi, ne pas travailler, c'était pas... J'avais envie de travailler. Je pense qu'à Paris, bon, j'aurais pu rester à l'ambassade ou j'aurais eu d'autres emplois. Quand on s'est marié, je me souviens, mes parents avaient très peur de ce mariage. Parce qu'épouser un Français, d'abord, les Français sont coureurs. Hein, il va avoir plein de maîtresses. Et puis, il va te diriger, il va te mettre la main sur... C'est la réputation que les Français avaient. Et puis finalement, je ne sais pas si tu as été maîtresse, je ne suis pas au courant et je ne veux pas l'être, mais je ne crois pas. Et puis, il m'a toujours laissé travailler, vivre ma vie de femme comme je le souhaitais.
En faisant la connaissance de Christa, il était difficile pour nous d'imaginer que cette femme élégante, assise dans son grand salon au bord de la mer, puisse avoir traversé de telles aventures au cours de sa vie. Christa est une preuve vivante de la résilience, de la force de la vie et de la capacité humaine à repartir à zéro dans des pays dont on ne connaît pas la culture. Merci Christa pour ton récit et l'envie de le partager.
Et vous alors ? Et vous alors ?
Mamie dans les orties est un podcast réalisé par Marion Deboire et Héloïse Pierre. Si l'envie vous démange, après avoir été piquée par les orties de cette vie de mamie, de partager l'épisode, de mettre plein d'étoiles sur Apple Podcasts ou simplement d'échanger avec nous une tasse de thé sur Instagram ou Twitter, surtout, allez-y. Trouvez-nous sur les réseaux à @mamiepodcast et par email à bonjour@mamiedanslesorties.co. À bientôt!
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.